Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
C'est le mystère de l'homme que nous avons à méditer aujourd'hui. Je commencerai par une phrase très connue qui est la suivante. L'homme n'est ni ange ni bête. Et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. L'homme n'est ni ange ni bête. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire qu'il est intermédiaire, il est entre les deux. S'il agit comme la bête, il perd, il déchoit de sa nature. Et s'il cherche à agir comme l'ange, il cherche à s'élever au-dessus de son état. Et cela aussi le conduit à quelque chose d'absurde. Ce quelque chose d'absurde, c'est qu'en voulant faire l'ange, il fera la bête. En voulant monter, il tombera. Pascal continue. S'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante. Et je le contredis toujours jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Voilà, c'est une des pensées les plus profondes. Si l'homme se vante, je l'abaisse. Que veut dire Pascal ? Bien, si un homme se vante de ses qualités, ou de sa qualité, de sa grandeur propre en tant qu'homme, la capacité de penser, d'aimer, de donner, que sais-je, chaque fois Pascal s'emploiera à montrer tout ce qui ne convient pas, tout ce qui contredit cette grandeur, à savoir donc la vanité, le divertissement, le néant de son être, etc. Donc si l'homme se vante de soi, de sa qualité ou de son œuvre, Pascal sera là pour l'abaisser, lui montrer sa bassesse. Mais inversement, si l'homme s'abaisse, je le vante. Si l'homme s'abaisse, par exemple, si l'homme s'abaisse en se découvrant misérable, en disant « je suis un misérable, je suis un ivrogne » comme le capitaine Haddock dans la bande dessinée de Tintin que tout le monde connaît. Voilà, nous sommes capables aussi, nous sommes prompts aussi souvent à nous abaisser à nos propres yeux, aux yeux d'autrui, à nous flageller en public ou en privé, à nous abaisser, à descendre l'estime de nous-mêmes et à nous mépriser. Mais voilà que l'homme qui s'abaisserait, aussitôt il faudrait le vanter, il faudrait le relever. S'il se relève, je l'abaisse, mais s'il s'abaisse, je le relève. Pourquoi le relever ? Eh bien, pour lui faire voir sa grandeur. Et lui faire voir que, certes, il a pu tomber, il a pu chuter, il peut être dans la bassesse, dans la vilenie, la méchanceté, la cruauté, que sais-je, mais il garde en lui quelque chose de la bonté originaire de son être, et on peut donc le vanter pour le lui rappeler. Le but immédiat du jeu, ici, chez Pascal, est le suivant, contredire toujours. S'il s'élève, je l'abaisse, s'il s'abaisse, je l'élève, je le contredis toujours, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Voilà donc une pensée profonde. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme est un monstre incompréhensible. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui nous dit cela, c'est de l'ordre de l'autocompréhension. Connais-toi toi-même. L'homme qui parvient à se voir soi-même ainsi, comprend qu'il ne comprend pas, comprend qu'il est lui-même en tant qu'homme un monstre et un monstre incompréhensible. Alors, c'est un peu redondant parce qu'en fait un monstre est quelque chose d'incompréhensible. Un monstre c'est ce qui est à la fois soi-même et son contraire. Voilà donc en l'homme quelque chose de monstrueux. Ne prenons pas le mot monstrueux ici au sens courant. Rappelons-nous aussi que par exemple un mouton qui naîtrait avec cinq pattes est un monstre selon la nature. Il y a dans la nature des monstres de ce point de vue-là. Donc que dit Pascal quand il dit que l'homme se découvre lui-même comme étant un monstre ? Eh bien il se découvre comme n'étant pas à sa place, comme étant en dehors de la nature, c'est-à-dire en fait en dehors de sa nature, déchu de sa nature. Il est un monstre incompréhensible en ceci qu'il y a en lui quelque chose qui contredit sa véritable nature et sa véritable destination. Quelle est cette chose ? Eh bien, c'est ce qu'il faut méditer maintenant. Nous avons beaucoup insisté sur le malheur de l'homme, sur la misère de l'homme, sur le néant de l'homme, le désespoir. Mais il faut insister maintenant sur le fait que Pascal ne se complaît pas à cela. Pascal n'est pas un pessimiste qui veut nous faire voir nos turpitudes, notre péché, nos fautes, la misère de l'homme, etc. Pascal n'a fait cela qu'afin de nous faire voir, enfin, le véritable mystère de l'homme. Le véritable mystère de l'homme, c'est d'être ce monstre incompréhensible à ses propres yeux. Et maintenant, nous avons la clé du chiffre. Plutôt, nous avançons en direction de la clé du chiffre. Je lis un autre fragment célébrissime. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable, mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. Voilà donc une grandeur paradoxale. Regardons d'abord ce que serait une grandeur non paradoxale. Ce serait une grandeur qui serait proprement une grandeur, dans la plénitude de sa grandeur. Un grand peintre, un grand musicien, etc. Voilà de la grandeur pure et simple. Mais la grandeur de l'homme n'est pas une grandeur pure et simple. C'est une grandeur renversée, une grandeur comme pervertie. Et c'est la grandeur qui consiste en la connaissance de soi comme misère. C'est tout à fait profond et étonnant. Un arbre misérable ne se sait pas misérable, n'a pas de sentiment de soi, ne se sait pas. En revanche, ce qui caractérise l'homme, c'est que s'il est misérable, parce qu'il est mortel, parce qu'il est frappé par tout ce que nous avons vu, le néant, le désespoir, etc., ce qui caractérise l'homme, c'est la capacité de savoir cela. Donc l'homme n'est pas purement et simplement misérable, il est le misérable qui se sait misérable. Et par là, ce savoir misérable est l'indice de sa grandeur. C'est être grand que d'être capable de connaître. C'est être grand que d'être capable de se savoir misérable. Et donc nous avons maintenant accès à une première clé. Cette clé, c'est la pensée. Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? C'est la pensée. Cette pensée fera aussi paradoxalement son malheur. Parce que par la pensée, l'homme découvrira sa misère. Sa situation d'abandon, de désespoir, le néant de son être, tout ce que nous avons vu. Mais par cette même pensée, il saura sa condition et il pourra interroger cette condition et il pourra donc la penser. Continuons. Pascal continue en disant « On n'est pas misérable sans sentiment. Une maison ruinée ne l'est pas, il n'y a que l'homme de misérable. » Voilà. Une maison tombée en ruine ne sait pas qu'elle est tombée en ruine, ne sent pas sa ruine. Elle ne se rappelle pas ce qu'elle a été, elle ne sent pas ce qu'elle est devenue. En revanche, la misère de l'homme, la ruine de l'homme, est une ruine que l'homme sent. Ce qui veut dire que, en vérité, il n'y a dans l'univers que l'homme de mortel, que l'homme qui sent le néant de son être, et par conséquent que l'homme qui soit misérable. La misère est la condition véritable de l'homme, d'après la chute. Il n'y a que l'homme de misérable. Parce qu'il n'y a que l'homme qui soit misérable en sachant qu'il l'est et qui aspire à retrouver une grandeur perdue. Et c'est cela qui nous conduira à la véritable clé du chiffre chez Pascal. La clé du chiffre sera Jésus-Christ. Alors, quand je parle de clé du chiffre, j'emploie une expression précise. Un chiffre, vous le savez, c'est ce qui s'appelle un message chiffré. Tous les enfants se sont amusés à déplacer les lettres, par exemple, toutes dans un texte quelconque. Je déplace d'un rang ou de deux rangs les lettres. Donc un A devient un B devient un C, etc. Et si j'envoie à quelqu'un un message chiffré, ce quelqu'un, s'il n'a pas la clé du chiffre, à savoir le déplacement d'un rang des lettres, est incapable de comprendre ce message. Donc la thèse de Pascal ici, c'est que l'homme est un chiffre. L'homme est un message chiffré et il nous manque, ou plutôt il nous faut, trouver la clé de ce chiffre. La clé du chiffre, ce sera, nous le verrons plus tard, Jésus de Nazareth. Donc en tout cas, nous avançons vers la clé du chiffre. Et nous touchons ici à quelque chose qui est essentiel pour comprendre la pensée de Pascal. Que dit-il ? Penser fait la grandeur de l'homme. Voilà. Cet homme qui est misérable, cet homme qui est mortel, qui est dans l'angoisse devant sa mort et dans le désespoir devant son néant, cet homme est cependant grand. La pensée fait sa grandeur. Donc la grandeur propre de l'homme tient à la pensée. Je continue. Je puis bien concevoir un homme sans mains, sans pieds, sans tête, car ce n'est que l'expérience qui nous apprend que la tête est plus nécessaire que les pieds. Mais je ne puis concevoir l'homme sans pensée. Ce serait une pierre ou une brute. La pensée donc n'est pas quelque chose d'accessoire, d'accidentel ou d'auxiliaire pour l'homme. Un homme peut être dépourvu de pieds, il peut avoir perdu les pieds à la guerre. Il peut avoir perdu tel ou tel membre, perdre la tête, ce serait autre chose, sinon dans l'expression au sens figuré, évidemment. Mais voilà qu'on ne peut pas concevoir un homme sans la pensée. Donc ça veut dire que la pensée appartient à l'essence de l'homme. L'homme n'est pas une certaine entité qui, de temps en temps, pense. L'homme est celui dont toute l'essence tient dans la pensée. Un homme sans pensée ne serait pas un homme, ce serait une pierre ou une brute, c'est-à-dire un animal dépourvu de conscience. Continuons cette méditation sur la pensée. Pascal, nous l'avons vu, à la fois veut nous élever et en même temps nous rabaisser, toujours l'un par rapport à l'autre. Il continue ainsi. Toute la dignité de l'homme est dans la pensée. Mais qu'est-ce que cette pensée ? Qu'elle est sotte. La pensée est donc une chose admirable et incomparable par sa nature. Il fallait qu'elle eût d'étranges défauts pour être méprisable, mais elle en a de tels que rien n'est plus ridicule. Qu'elle est grande par sa nature, qu'elle est basse par ses défauts. Voilà donc aussitôt Pascal opérer ce renversement du pour au contre. Il nous montre la grandeur de l'homme, qui tient à la pensée, à la puissance de pensée qui est inhérente à ce que nous sommes, mais, et là c'est un héritage de Pascal, de Descartes évidemment, mais en même temps il souligne le caractère faillible de cette pensée. Cette pensée peut tomber dans la sottise, dans l'erreur, dans l'aberration. Donc elle est grande de par sa nature, mais de par l'exercice que nous en faisons, elle est basse. C'est-à-dire en fait qu'elle est grande, mais elle peut tomber d'elle-même, elle peut déchoir de sa propre grandeur. Cela veut dire donc qu'il dépend de nous de faire un bon usage de la pensée, de nous exercer à bien penser, mais que nous pouvons très bien nous laisser aller à ne pas penser. Cela porte un nom, ça s'appelle l'opinion, ça s'appelle le troupeau, et tout ce qui nous incline à ne pas penser, à abdiquer de la pensée. Nous pouvons arriver à partir de là à une pensée célèbre de Pascal aussi, que tout le monde connaît. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Regardons le style de Pascal. Apparemment, Pascal est du côté de ceux qui pensent que l'homme n'est rien. L'homme n'est qu'un roseau. En vérité, ce n'est pas la thèse de Pascal. Pascal ne dit pas que l'homme n'est rien, il n'anéantit pas l'homme ici, ne le ridiculise pas, mais il prend au sérieux la thèse de ceux aux yeux de qui l'homme n'est rien. Et il la prend au sérieux pour la détruire. Que dit-il ? L'homme n'est qu'un roseau, donc voilà ce que certains pensent, que l'homme n'est rien, que l'homme est infime, que l'homme est la moindre des plantes, ou comme la moindre des plantes. Et même il surenchérit en disant « le plus faible de la nature ». Mais c'est un roseau pensant. Vous voyez que le « mais » ici fait tout basculer, et nous arrivons à la merveille. Supposons que ce soit le plus faible des vivants ou des animaux, ou de ce que vous voudrez, le simple fait que ce soit un roseau pensant, le simple fait qu'il soit pensant, fait justement qu'il n'est pas un roseau, qu'il n'est pas infime, qu'il n'est pas rien. Pascal continue, il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser, une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer, mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. L'homme est mortel, et mieux, l'homme se sait mortel. La grandeur de l'homme donc, ne tient pas à l'étendue ou à la grandeur physique du corps humain, à son poids, à sa taille, etc. La grandeur de l'homme tient à la pensée, qui est ici la pensée qui lui permet de se savoir mortel. L'univers peut durer des milliards d'années, néanmoins l'univers n'est rien comparé à l'homme, parce que l'homme est pensée.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Continuons notre lecture. Je cite un autre passage. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il nous faut nous relever, et non de l'espace et de la durée que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. Voilà la grandeur de l'homme, toute la dignité de l'homme, toute la grandeur de l'homme, procède de la pensée, de la capacité de penser qui lui est confiée. L'homme ne sera pas grand par la durée ni par l'espace. Tout cela, il ne peut pas le remplir. En revanche, il peut remplir la pensée. En revanche, il peut exercer la pensée et laisser la pensée être remplie par la vérité. Et c'est là le principe de la morale. Mais ce n'est pas seulement le principe de la morale, parce que ce n'est pas seulement ce qui nous permet de bien agir, de bien nous conduire. C'est cela, la morale. Mais c'est aussi ce qui nous permet de connaître la vérité. Donc il y a une dimension que l'on peut appeler métaphysique. Je lis un autre fragment. Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. Je n'aurai pas d'avantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Nous voyons ici deux grandeurs incommensurables. La grandeur de l'univers, et nous rappelons que Pascal est contemporain de la thèse, et qui est une thèse présente chez lui, selon laquelle l'univers est infini ou indéfini. Et donc à ce moment-là, c'est comme un cercle dont la circonférence est partout et aussi bien le centre est nulle part, puisque c'est un cercle infini. Donc, de par la grandeur, l'univers effectivement excède toute grandeur physique que je peux connaître et que je pourrais être. L'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Admirons au passage la dualité du mot « comprendre ». Par l'espace, c'est l'univers qui me comprend. Par la pensée, c'est moi qui comprends l'univers. Et il y a donc ici quelque chose d'admirable. C'est que s'il y a dans l'univers un être capable de penser, l'univers n'est pas le même. Imaginons un musée dans lequel nul n'entre plus. Les tableaux suspendus au mur sont comme morts. Le tableau n'existe que s'il existe avec quelqu'un et pour quelqu'un, et il fait signe vers quelqu'un en attirant le regard. Un univers sans l'humanité ne serait plus du tout l'univers, en fait. Par la pensée, l'homme comprend l'univers, et par la pensée, l'homme découvre qui il est et se découvre habitant dans l'univers, existant dans l'univers, et se pose des questions que nous appelons métaphysiques. Nous touchons donc ici à la grandeur propre de l'homme, qui est une grandeur paradoxale. Je lis un autre fragment. La grandeur de l'homme est si visible qu'elle se tire même de sa misère. Car ce qui est nature aux animaux, nous l'appelons misère en l'homme, par où nous reconnaissons que sa nature, étant aujourd'hui pareille à celle des animaux, il est déchu d'une meilleure nature qui lui était propre autrefois. Alors, le paradoxe ici, c'est qu'il y a une misère de l'homme, mais que persiste une grandeur dans la misère. Vous voyez qu'il ne faut pas simplement les spatialiser, d'un côté la grandeur, de l'autre côté la misère, mais les articuler. Le génie de Pascal nous fait comprendre que la grandeur de l'homme se tire même de sa misère et que l'homme est grand jusque dans sa misère. Donc il n'y a pas d'un côté la grandeur de l'homme, d'autre côté la misère, mais la grandeur de l'homme qui est l'essence première de l'homme et la destination ultime de l'homme et une grandeur qui persiste jusque dans la misère. Ça, c'est admirable. Pascal nous le fait voir en prenant l'exemple de rois de l'Antiquité, il puise ses exemples dans l'histoire, en nous montrant l'exemple d'un homme qui est arrivé au pouvoir par hasard et qui a perdu le pouvoir royal, mais pour qui cela n'a pas été finalement une épreuve, parce qu'il n'était pas roi, il n'était pas destiné à être roi. En revanche, un autre homme qui a été roi et dont la destinée ou la nature était d'être roi, voilà que cet homme qui n'est plus roi sera malheureux. Donc cela donne à Pascal une de ses plus belles images pour nous faire comprendre en quoi nous sommes un monstre incompréhensible à nos propres yeux. C'est l'image du roi dépossédé. Je lis « Car qui se trouve malheureux de n'être pas roi, sinon un roi dépossédé ? Celui qui n'a jamais goûté à la royauté, qui n'a aucune idée de la royauté, ne sera pas malheureux de n'être pas roi. » Pascal prend un autre exemple, c'est l'exemple de la bouche ou de l'œil. Imaginons que nous n'ayons qu'un seul œil, nous ne serions pas malheureux de n'avoir qu'un seul œil. Mais si notre nature fait que nous devons avoir deux yeux, celui qui n'aura qu'un seul œil sera malheureux. Donc le malheur ici ne se comprend qu'à partir d'une nature originaire et d'une nature perdue. Et nous comprenons la misère de l'homme en comprenant que cette misère est un résultat. Cette misère est la conséquence d'un péché premier qui s'appelle le péché originaire. Donc le malheur de l'homme, ce n'est pas le malheur d'une pure et simple misère, c'est le malheur d'un roi dépossédé. C'est le malheur de celui qui est né pour être roi, mais qui se trouve en état d'être empêché d'être roi, et qui se trouve en état de sentir qu'il aspire à une royauté qu'il ne retrouvera pas de par lui-même dans cette vie. Je lis la phrase suivante. « Toutes ces misères-là même prouvent sa grandeur. Ce sont misères de grand seigneur, misères d'un roi dépossédé. » Là encore, admirable fragment. « Misères de grand seigneur. » Les misères d'un homme, aussi petit soit-il, au point de vue de notre regard social le plus souvent faux, nous fait voir justement ce que dit Pascal ici. La véritable misère de l'homme, quel qu'il soit, c'est une misère de grand seigneur. Il y a en toute personne humaine, fût-elle la moindre dans la hiérarchie sociale, un grand seigneur, un roi. Il y a en tout homme une grandeur qui tient à la capacité de penser. Continuons et lisons les fragments liés à celui-ci pour comprendre la situation de l'homme. Que dit Pascal ? Nous souhaitons la vérité et ne trouvons en aucune incertitude. Nous recherchons le bonheur et ne trouvons que misère et mort. Nous sommes incapables de ne pas souhaiter la vérité et le bonheur, et sommes incapables ni de certitude ni de bonheur. Ce désir nous est laissé tant pour nous punir que pour nous faire sentir d'où nous sommes tombés. Là encore, c'est un profond texte que nous avons à méditer. Nous trouvons d'abord dans l'homme un désir de vérité, une aspiration à la vérité. Mais cette aspiration est constamment déçue. Nous qui aspirons à la vérité ne la trouvons pas, et au lieu de cela trouvons l'incertitude. Nous retrouvons ici évidemment toute la grande tradition du doute, de la skepsis, la philosophie, l'exercice de la pensée comme doute, comme examen, et cet examen nous fait douter de toute chose, nous connaissons cela. Voilà donc l'homme qui souhaite la vérité et qui débouche sur le doute. D'autre part, nous voyons, eu égard à la vie, l'homme qui recherche le bonheur et qui, loin du bonheur, trouve la misère et la mort. La vérité est la condition humaine, c'est la misère, le néant de son être, le désespoir, et c'est la voie à mourir. Ensuite, ce qui importe, c'est que la vérité, là encore, n'est pas en nous simplement quelque chose d'annexe ou d'accessoire, mais quelque chose d'essentiel à notre nature. C'est pourquoi Pascal écrit « Nous sommes incapables de ne pas souhaiter la vérité et le bonheur ». Donc il y a dans la nature de l'homme, et c'est là l'indice de la grandeur originaire de l'homme, une aspiration à la vérité et au bonheur. Et jusque dans notre misère, cette aspiration à la vérité et au bonheur est toujours le témoin et la marque qui nous rend certains de notre grande origine et en même temps qui nous fait connaître notre déchéance. Pascal continue en disant « Ce désir nous est laissé, donc il y a en nous quelque chose qui nous est laissé de notre nature primitive, qui est comme la trace de la nature primitive, sous mode négatif, le désir. Tant pour nous punir que pour nous faire sentir d'où nous sommes tombés. Donc le malheur de l'homme, c'est de sentir qu'il est tombé en gardant le désir comme désir simplement creux, vide, mais désir qui est bel et bien quelque chose d'essentiel dorénavant au cœur de l'homme. Nous trouvons un autre passage capital qui nous parle de la même chose. Je le lis. Nous avons une impuissance de prouver, invincible à tout le dogmatisme. Nous avons une idée de la vérité, invincible à tout le pyrrhonisme. C'est encore une des pensées les plus profondes de Pascal. D'abord, nous avons une impuissance de prouver. Ce qui veut dire que nous avons, nous, une tendance à ce qui s'appelle le dogmatisme. Nous voulons prouver, établir des dogmes, des vérités. Et nous pouvons, dans les sciences, dans la théologie aussi, dans la philosophie, partout, nous voulons prouver. Et prouver aux yeux d'autrui aussi bien qu'à nos propres yeux. Donc nous voulons prouver universellement, rationnellement. Mais voilà que nous avons une incapacité de prouver. Voilà que nous éprouvons l'impuissance de prouver, l'échec de toutes les preuves, qui ne satisfont jamais absolument. Donc cette impuissance de prouver est invincible à tout le dogmatisme. Premier point, donc, impuissance de l'homme. Impuissance dans la preuve, au sens de la science. Deuxième point, nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme. Et nous voyons de nouveau ici Pascal qui renverse les choses, le pour et le contre. Parce que de l'impuissance de prouver, nous devrions conclure justement au désespoir. L'homme est incapable de prouver quoi que ce soit. Au mieux, il aborde des hypothèses en physique, en astrophysique, pour la justice, pour l'État, etc. Voilà. Mais le paradoxe, c'est que cette impuissance de prouver, en fait, est à comprendre en liaison avec autre chose, qui s'appelle une idée de la vérité. Le pyrrhonisme, c'est une école philosophique fondée par Pyrrhon, c'est l'école sceptique. Et Pascal montre ici qu'il y a en nous une idée de la vérité que le pyrrhonisme ou que le scepticisme ne pourra pas vaincre. Oui, nous sommes incapables de prouver, mais le revers de la médaille, l'autre côté de la médaille plutôt, c'est que nous avons une idée de la vérité. Et la finesse de Pascal permet de comprendre que cette idée de la vérité en fait est première. Pourquoi ? Parce que, apparemment, la situation est la suivante. Un homme voudrait prouver quelque chose, il n'y parvient pas, il échoue, il est malheureux. Mais en vérité, ce n'est pas ainsi que les choses se présentent. Ce qui est premier, c'est l'idée de la vérité. De telle sorte que si je n'avais pas l'idée de la vérité, je serais incapable de douter. Je ne peux douter, je ne peux soumettre à l'examen les preuves que je fournis ou qu'autrui fournit que parce que je suis habité par l'idée de la vérité. Cette idée de la vérité est nue, elle est vide. C'est tout ce qui nous reste de notre première nature, mais c'est tout ce qui nous reste aussi de notre grandeur, et c'est l'indice absolu de notre grandeur originaire.